Le soir avec Nicolas Balu et Éric Bastien.
Bonsoir à tous, bienvenue sur France Bleu. Dans un instant, le journal avec Nicolas Balu, la rédaction de France Bleu. Et puis à partir de 19h15, notre invité, le comédien Fred Testo, pour le retour de Sam dès lundi sur TF1 pour la troisième série. Il sera avec vous jusqu'à 20h. Bonsoir Nicolas Balu.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
L'actualité de ce soir, c'est le handball.
Eh oui, la demi-finale des championnats du monde. La France, tenante du titre, affronte le Danemark. Nous allons sur place dans un instant à Berlin. Le match vient de se terminer. Les gilets jaunes et les foulards rouges également dans ce journal. Week-end de mobilisation. Est-ce qu'on arrive à un tournant de la crise? Notre invité, Philippe Moreau-Chevrolet, nous aidera à y voir plus clair. L'armée et les chasseurs, côte à côte pour tuer des centaines de sangliers dans les Ardennes. Une battue géante de 6 jours. Alexandre Blanc nous en expliquera les enjeux. Anne Hidalgo crée une police municipale à Paris. Les agents seront armés de matraques. Et puis bien plus doux, Éric Bastien, vous recevez Fred Testo ce soir.
Ouais, pour la série Sam, une professeure complètement déjantée, un principal qui redevient professeur. Ça démarre lundi pour la troisième saison, c'est sur TF1, on en parle jusqu'à 20h.
France Bleu Soir, Éric Bastien, Nicolas Balu.
France-Danemark, la demi-finale des championnats du monde vient de se terminer, Nicolas.
Oui, demi-finale très attendue, d'autant que c'est un peu une finale avant la lettre. Le Danemark, grand concurrent des Bleus, on file tout de suite à Berlin rejoindre Xavier Monferrand. Bonsoir Xavier.
Alors, bonsoir Nicolas.
Qu'est-ce que ça donne? Le match vient de se terminer.
Eh bien, écoutez, ça donne que les Français n'iront pas défendre leur titre. Ils se sont inclinés et largement, très largement, face aux Danois, 38 à 30, c'est suffisamment rare pour le signaler. 8 buts d'écart. Les experts n'étaient pas 6 experts ce soir. Clairement, ils étaient un voire deux tons en dessous. Ils ne se sont vraiment jamais réveillés. On attendait un réveil qui ne sera jamais venu dans ce match. Clairement, les Bleus étaient là sans être là. Ils étaient sur le terrain. Ils ont peut-être cru que le match c'était demain. Mais non, c'était bien soir. Et ce sont les Danois qui iront donc chez eux tenter de décrocher le titre mondial à Herning dimanche en finale. Les Français eux aussi iront au Danemark, mais pour jouer la médaille de bronze. C'est une grosse déception, mais il manquait trop de choses ce soir pour les Français et particulièrement des gardiens.
Merci Xavier Monferrand, on vous laisse vous consoler et retrouver les joueurs. Je vous rappelle le score assez inédit de cette demi-finale, 38 à 30 pour le Danemark.
Nicolas, c'était pas un bon jour pour le sport français.
Ah non, il n'y a pas eu de miracle à l'Open de tennis de Melbourne, d'Australie ce matin. Lucas Pouille s'est fait sortir par Novak Djokovic. Une défaite très sèche, 6-0, 6-2, 6-2, le nordiste ne verra pas la finale.
La France va reprendre des couleurs ce week-end.
Oui, mais là on ne parle pas de sport. Le mouvement des gilets jaunes continue demain, la manifestation des foulards rouges à Paris dans la foulée, sans oublier les 90 marches pour le climat partout en France. Des gilets jaunes mais et qui cherchent à renouveler leurs actions, du moins ceux qui sont encore sur les ronds-points. Ce nouvel épisode pourrait d'ailleurs être marqué par une nuit jaune à Paris. Mais des gilets jaunes également tiraillés entre la constitution d'une liste pour les élections européennes, la participation au grand débat, et puis dans la rue, donc dimanche, ceux qui veulent représenter, disent-ils, la majorité silencieuse. Je veux parler des foulards rouges.
Et avec nous pour en parler ce soir, un spécialiste de la communication politique.
Philippe Moreau-Chevrolet, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez MCBG Conseil, une société de conseil aux dirigeants. Est-ce que ce week-end peut être un tournant réel du mouvement des Gilets jaunes?
Oui, c'est l'histoire de l'Élysée en tout cas, après la mise en place du grand débat qui s'est fait à deux échelons, à l'échelon d'Emmanuel Macron qui a fait un véritable show pendant 6 heures, un stand-up face à des élus. Ensuite, il est apparu dans l'un des débats locaux qui commence à prendre. L'espoir de l'Élysée, c'est que finalement, en fixant comme ça, en occupant le terrain à la fois local et médiatique, bien finalement, les gilets jaunes se démobilisent. En plus, on voit apparaître effectivement une liste conduite par Levavasseur, une liste qui pourrait se présenter aux européennes. Donc, il y a une division quelque part du mouvement qui est en train de s'effectuer. On observe aussi qu'Éric Drouet se sépare de Maxime Nicole et des autres membres des Gilets jaunes qui ont émergé comme porte-parole. Donc il y a plusieurs facteurs qui, pour l'exécutif, donnent l'impression que ça peut décroître ce week-end. En même temps, on dit ça chaque semaine et ça ne décroît pas jusqu'à présent.
Il y aura cette manifestation de foulard rouge dimanche. Est-ce que ça a un sens de comparer les Gilets jaunes et les foulards rouges d'un jour sur l'autre?
Alors oui, il y a un sens qui est quel est le groupe qui va mobiliser le plus. La grande force des Gilets jaunes jusqu'à présent, c'est d'être la seule force politique en France à pouvoir mobiliser chaque week-end sur l'ensemble du territoire entre 50 et 80 000 personnes, ce qui est énorme dans la configuration politique actuelle. Aucun parti politique n'est capable de réaliser une opération de ce type aujourd'hui. Donc tout l'enjeu des foulards rouges, hein, ça va être de montrer qu'ils peuvent être au moins aussi nombreux. Alors à Paris uniquement, visiblement, et l'idée est de rééditer ce qu'avait fait la marche gaulliste, hein, qui avait mobilisé 400 000 personnes à la fin du mois de mai 1968. Mais alors... Évidemment, c'est la grande référence historique.
Oui, mais alors parallèlement, il y a la séquence du grand débat qui marche plutôt bien, il marche plutôt bien ce grand débat. Dans le fond, est-ce que cette manif des foulards rouges n'est pas complètement décalée à ce moment précis ?
Oui, c'est pas le. En fait, l'idée avait émergé au moment où la crise était à son pic et au moment où justement les macronistes se disaient on doit opposer un mouvement de terrain, un mouvement populaire au mouvement populaire des Gilets jaunes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est un peu décalé puisque la machine lancée par l'Élysée tourne plutôt bien. Après, elle tourne en dehors des Gilets jaunes. Hein, c'est toujours deux continents, les Macron et les Gilets jaunes qui se regardent un peu de loin, mais au moins la machine de l'Élysée tourne, elle commence à porter ses fruits, y compris en termes de popularité. Donc pourquoi venir prendre un risque aussi énorme finalement dimanche ? Le plus grand risque étant de ne pas être très nombreux et de ne pas pouvoir justement mobiliser. Ça c'est un vrai enjeu.
Un vrai enjeu et un vrai risque. Philippe Moreau-Chevrolet, je voudrais juste un petit mot sur l'émission de ce soir de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, avec Cyril Hanouna. Ça réhabilite la politique ou ça la dessert ?
Alors les deux, c'est tout le paradoxe de cette séquence, alors ça la réhabilite d'une certaine façon parce que l'émission de Cyril Hanouna est devenue un lieu où les Gilets jaunes peuvent s'exprimer, dialoguer à la télévision. Et ils sont pas nombreux, ces lieux-là, où finalement il y a un espace comme ça qui est créé en quelque sorte pour eux. C'est la très grande, c'est le côté politique de Cyril Hanouna qui pour moi est un véritable homme politique, c'est-à-dire qu'il sent l'opinion de cette façon-là. Donc c'est bien pour l'exécutif d'y aller parce que c'est l'endroit où il peut être entendu des Gilets jaunes, où il peut commencer à dialoguer avec eux. C'est moins bien pourquoi ? Parce qu'au fond, c'est plutôt la position de Marlène Schiappa qui est ambiguë, parce qu'elle disait qu'elle allait co-animer l'émission. C'est clairement pas la place d'un ministre. Et est-ce que Marlène Schiappa, qui n'est pas exactement Premier ministre, qui n'a pas finalement beaucoup d'autorité politique non plus, est la bonne personne pour aller dialoguer avec les Gilets jaunes dans une première confrontation publique, dans une émission très regardée ? C'est beaucoup de questions là aussi. Chaque chose que fait le gouvernement en ce moment est une chose nouvelle, par définition un peu improvisée.
Et qui donc pose un certain nombre de questions.
Oui, absolument.
Merci Philippe Moreau-Chevrolet d'avoir passé quelques minutes avec nous dans ce journal pour nous éclairer. Bonne soirée.
Merci.
France Bleu Soir, 19h07, la suite du journal avec vous Nicolas Ballu et les derniers chiffres du chômage qui sont plutôt bons.
Oui, 42 000 chômeurs de moins au dernier trimestre 2018, une baisse du chômage dont bénéficient surtout les jeunes. Ceux qui sont le moins concernés par cette amélioration sont les chômeurs de longue durée.
Le gouvernement reporte son projet sur la résiliation des mutuelles.
Officiellement pour des raisons techniques. Normalement, cette mesure devait être incluse dans une loi par un amendement. C'est tout bête, mais l'ennui c'est que la loi n'a rien à voir avec le sujet. Dommage parce que cette mesure pourrait bien vous faciliter la vie, Solène.
L'objectif est bien que cette mesure entre en vigueur le 1er janvier prochain. Elle ne sera pas dans la loi cette fois-ci, mais dans une prochaine, assure une source proche du dossier. Le projet, c'est qu'à tout moment, un Français puisse résilier sa complémentaire santé, mutuelle ou assurance prévoyance. Aujourd'hui, vous pouvez généralement les résilier seulement à la date anniversaire du contrat ou avec un délai de préavis. L'idée du gouvernement est donc de donner plus de liberté aux consommateurs, plus de souplesse au système, de favoriser la concurrence et de faire baisser les prix. Au contraire, s'insurgent les mutuelles depuis une semaine, la mutualité française en tête, cela va faire augmenter les prix. Alors officiellement, si le gouvernement abandonne l'idée pour l'instant, ce n'est pas à cause du lobby des mutuelles, mais pour des questions juridiques. Matignon craint qu'un amendement tel dans la loi Pacte ne soit pas jugé pertinent mais considéré comme un cavalier et soit retoqué au bout du compte par le Conseil constitutionnel. En effet, le lien entre la résiliation de votre complémentaire santé et cette loi Pacte qui entend favoriser la croissance et le développement des entreprises, eh bien ce lien ne saute pas aux yeux.
Solène Lehen pour France Bleu.
France Bleu Soir, 19h09, avec Nicolas Ballu. On vous parle de la création d'une police municipale à Paris. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. La décision de la maire de Paris, Anne Hidalgo aussi, qui suscite déjà des remous. On va en parler, mais d'abord, Nicolas, cette battue géante des chasseurs et de l'armée dans les Ardennes.
Eh oui, une mobilisation annoncée ce matin par le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Tous ces sangliers sont infectés par la peste porcine côté Belgique. Le gouvernement a donc décidé de faire le vide sanitaire. Une propagation de la maladie en France aurait de graves conséquences et les battues commencent déjà, Alexandre Blanc.
Il y en aura tous les jours jusqu'à mercredi prochain au moins, car l'Office de la chasse et de la faune sauvage estime qu'il y a environ 600 sangliers à abattre dans les 141 km² de zone blanche. Pour l'heure, moins de 100 bêtes ont été tuées et désormais tous feront l'objet d'analyses pour déceler l'éventuelle présence de peste porcine africaine, ce qui n'était pas encore le cas en France. Didier Guillaume.
Nous n'avons rien à craindre puisque un sanglier qui est atteint par la peste porcine africaine, entre 2 et 3 jours, il meurt. Donc si on tire sur un sanglier qui court, c'est qu'il est indemne. Et nous n'avons rien à cacher. Nous avons besoin aussi de crédibilité par rapport à l'Europe.
Car si un cas de peste porcine africaine était décelé en France, c'est la filière porcine qui en serait la première victime. La Chine et le Japon refuseraient la viande française. Or, cela représente 35% des exportations de porc, 700 000 tonnes, 3,5 milliards d'euros, d'où les dépenses engagées par l'État pour éviter que cela ne se produise. La clôture de 43 km 300 a coûté par exemple 2 200 000 euros.
Ce n'est pas l'argent qui doit retenir l'intérêt supérieur de la nation, c'est-à-dire que la France reste indemne et que la filière porcine puisse continuer.
Pour l'heure, les mesures qui s'appliquent aux éleveurs consistent essentiellement à limiter l'accès aux exploitations et à renforcer les mesures d'hygiène. Mais s'il fallait imposer des équipements particuliers, l'État aiderait la filière porcine financièrement.
Alexandre Blanc de France Bleu Champagne. Une jambe cassée et des égratignures au visage, un enfant a tout de même la vie sauve après que deux voitures l'aient renversé. Ça s'est passé au Mans. Un garçon de 6 ans est tombé du coffre d'une voiture alors qu'elle redémarrait. Les deux voitures qui suivaient le garçon n'ont pu l'éviter. Elles ont roulé sur le petit garçon. Il est resté coincé sous les roues de ce deuxième véhicule jusqu'à ce que sa tante lui porte secours. L'enquête sur l'incendie de Courchevel, la piste criminelle, est sérieusement envisagée, affirme aujourd'hui le procureur de Chambéry. À ce stade, pourtant, il n'y a pas d'éléments tangibles qui permettent d'identifier un ou plusieurs auteurs. L'incendie avait provoqué la mort de deux personnes. Une soixantaine de travailleurs saisonniers y logeaient et beaucoup ont tout perdu.
19h12, Anne Hidalgo crée une police municipale à Paris.
Jusqu'à présent, les pouvoirs de police générale étaient dévolus à l'État. Il n'y avait qu'une police nationale. La maire de la capitale a décidé d'équiper ses futurs 4300 agents de tonfa, une arme considérée comme dangereuse. Ils n'auront pas d'armes à feu, mais des grenades lacrymogènes. Cette décision annoncée aujourd'hui crée déjà des remous. Antoine Quevilly.
Pour expliquer ce que certains qualifient déjà de revirement, l'élu socialiste s'appuie sur un audit réalisé auprès des Parisiens sur le sujet. Des habitants soucieux de voir respecter la propreté des rues, en luttant contre les dépôts d'ordures ou le vandalisme, d'assurer la tranquillité publique, en luttant contre les nuisances sonores, et de protéger les citoyens dans leurs déplacements, autant de missions qui ne seraient pas forcément du champ de compétence des agents municipaux. Autre argument de l'élu socialiste, en 5 ans, la menace terroriste a pris une toute autre ampleur, et du coup, où les policiers nationaux sont moins disponibles pour la gestion, disons, du mieux vivre ensemble. Anne Hidalgo parle même d'un contrat gagnant-gagnant avec le gouvernement. En échange, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, s'engage à maintenir les effectifs dans les commissariats, soit quelques 15 000 agents nationaux. Un vrai risque politique en tout cas pour la maire de Paris, qui coupe l'herbe sous le pied de ses opposants, quitte à fragiliser sa majorité plurielle.
Antoine Quevilly.
En football, l'OM va tenter de faire régner l'ordre sur son terrain, Nicolas.
Et rattraper les premiers de la Ligue 1 ce soir, mais leurs adversaires du jour et deuxième du championnat, Marseille-Lille, c'est à 20h45 ce soir. Et puis à Monaco, c'est le retour inattendu d'un entraîneur viré 3 mois plus tôt. Leonardo Jardim revient aux commandes du club.
Et puis on termine ce journal par un anniversaire un peu curieux, Nicolas Ballu.
Ouais, curieux parce qu'on ne le fête pas d'habitude. Alors on va juste le mentionner. Parce qu'on arrive au week-end, on va faire un petit jeu, je vous laisse deviner de qui il s'agit. Vous allez entendre six noms issus d'un même film. Allez, c'est parti.
Robert De Niro est Al Capone.
Il y a de la violence à Chicago, je dis pas le contraire, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça tue le commerce.
Kevin Costner est Elliot Ness. Sean Connery est Jimmy Malone.
Alors, est-ce que vous avez une idée ? Alors, il s'agit d'Al Capone.
Oui, Al Capone,
mort un 25 janvier 1949, figure du banditisme de la mafia de Chicago pendant la prohibition aux États-Unis. Sans foi ni loi, aux méthodes expéditives, mais arrêté par le fameux Elliot Ness. Cette histoire a inspiré de très nombreux livres, séries ou films comme celui-ci.
Je veux que vous me trouviez cette clopette d'Elliot Ness, je veux qu'il meure, je veux que sa famille meure.
Alors vous reconnaissez peut-être Les Incorruptibles, et oui, film de Brian De Palma. Il est incorruptible sûrement, Vous voulez de qui, vous voyez de qui je parle là?
De notre invité, Fred Testo, évidemment. Bonsoir Fred Testo.
Fred Texto. On peut dire ce qu'on veut, hein. Fred Testu, Fred Testo, Fred Texto. Fredo, Freddy, Fredoche.
Ça vous donne l'ambiance des prochaines minutes. Il est votre invité sur France Bleu jusqu'à 20h pour la série Sam qui arrive dès lundi sur TF1. Merci Nicolas Bell.
FranceBleu.fr. Tout France Bleu. Quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.